Les lectures de ce jour tournent clairement autour du personnage d'Abraham. Abraham, patriarche fondateur, destinataire de la première alliance. Personnage avec lequel nous pouvons d'ailleurs avoir un peu de mal. Est-ce que c'est un personnage historique ou plutôt traditionnel, littéraire, symbolique? Qu'en est-il de cette expérience du sacrifice d'Isaac? Serions-nous prêts nous-mêmes à ce sacrifice et nous est-il d'ailleurs demandé? Ce qui est clair, c'est que cette fameuse promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais nous paraît peut-être un peu lointaine. Cette alliance qui, entre autres choses, nous donnerait la propriété perpétuelle de la terre de Canaan n'est peut-être pas au cœur de nos préoccupations. Et pourtant, nous cherchons bien une terre où reposer, nous cherchons bien un lieu où l'amour n'est plus de frontières et où s'accomplisse vraiment ce pourquoi nous sommes faits. Et d'ailleurs, nous aurions peut-être tort de réduire l'espérance d'Abraham à celle d'une postérité terrestre. Si l'on en croit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Grâce à la foi, est-il écrit, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrit le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. » Alors, dans cette interprétation du sacrifice d'Abraham, que les Juifs d'ailleurs préfèrent appeler la ligature d'Isaac, eh bien, il y a la préfiguration d'une espérance, d'une vie. Et cela rejoint la proclamation que Jésus va faire aux grandes dames de ceux qui l'écoutent. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Alors, ce que Jean appelle les Juifs, il faut peut-être entendre ce terme autrement, ce sont les bien-pensants, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Ce sont les orthodoxes, les gardiens du temple, ceux qui veulent protéger la foi reçue d'Abraham contre toute innovation, contre toute transformation. Et voici que Jésus vient accomplir, non pas abolir, mais accomplir cette espérance de vie éternelle, cette espérance de résurrection manifestée un peu malgré lui par Abraham, en rappelant « si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort ». Et peut-être sommes-nous, en tout cas c'est mon cas, frileux devant cette espérance, parce que en ces temps de confinement et ces temps de deuil, eh bien, est-ce que véritablement ma foi est assez grande pour espérer ne jamais voir la mort? Les Juifs qui répondent à Jésus sont persuadés, comme nous le sommes aussi souvent, que la mort, ça fait partie de notre destinée. Et qu'on a beau imaginer un royaume des cieux, est-ce que nous y croyons vraiment? Et j'ai envie de dire en ce jour, oui, Seigneur, augmente en moi la foi. Permets-moi d'accéder à cette confiance que si je garde ta parole, si je la laisse féconder ma vie, alors jamais je ne verrai la mort. Alors, au titre de la réaction des religieux à la promesse de Jésus, il y a ce défi. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham, parce que lui est mort? La mort fait partie de la destinée humaine. Alors Jésus ne renie pas leur père Abraham, mais il leur montre comment Abraham est lui-même tout petit devant ce mystère de cette visite que Dieu fait à son peuple en s'incarnant. Abraham, votre père, a exalté, sachant qu'il verrait mon jour, affirme Jésus. Évidemment, ce n'est pas pour rassurer les Juifs sur la santé mentale de Jésus. Il se contente d'abord d'ironiser « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Et c'est bien une remarque humaine, une remarque d'historien soucieux d'éviter les anachronismes ou les antidatages. Or voici que Jésus, pour toute réponse, affirme ceci « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Et cette proclamation, qui va scandaliser les Juifs, est une proclamation décisive parce que En affirmant « Je suis », Jésus reprend l'un des noms de Dieu révélés à Moïse dans Exode chapitre 3. « Eyé, Asher, Eyé, je suis », c'est un nom de Dieu. Et Jésus affirme ainsi sa divinité. Et cette révélation que le public reçoit alors en pleine figure et qui le scandalise, nous dit quelque chose de tellement important. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. En s'incarnant, Dieu assume notre temporalité, mais il la dépasse. Dieu n'est pas indifférent à notre existence temporelle, puisque c'est lui qui la crée et la maintient en vie. Mais il la dépasse, hein, pour nous inviter à ne jamais voir la mort. Alors, en ce 2 avril, 15 ans exactement après le départ de Jean-Paul II, dont on espère que lui aussi n'a pas vu la mort, on peut redire, se répéter cette parole. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Et comme ce saint pape nous exhortait à le penser avec sa voix chevrotante, je vous propose une séquence nostalgie. Se on osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno.